C'est un plaisir de me retrouver parmi vous ce matin, de revenir à Saint-Maur, parce que j'y ai fréquenté l'assemblée de frères qui à l'époque était rue Edgar Quinet pendant une quinzaine d'années. C'est là que j'y ai connu Laura. On ne va pas raconter les anecdotes du passé, mais j'ai connu Laura toute petite avec sa famille. Et donc voilà, c'est un plaisir de découvrir votre communauté ce matin et de revenir à Saint-Maur. Philippe m'a proposé de prendre le train en marche avec vous dans ce voyage que vous faites au travers du livre de l'Exode. Et on va lire ensemble ce matin le début du chapitre 13. Donc vous pouvez déjà chercher dans votre Bible Exode chapitre 13. La vie chrétienne, c'est à la fois un devoir de mémoire envers le Dieu qui nous a sauvés. On a déjà utilisé plusieurs fois le mot « libéré » dans ce culte. Et la vie chrétienne, c'est aussi un avant-goût de ce qui nous attend lorsque nous serons pour toujours réunis avec notre Seigneur Jésus. Et le culte que nous vivons ensemble ce matin fait partie de cette vie chrétienne. Nous sommes rassemblés pour nous souvenir du salut qui nous a été offert en Jésus-Christ et aussi pour annoncer le jour où nous adorerons notre Sauveur. Et en ce jour-là, nous le verrons avec nos propres yeux. Et le texte de l'Exode que nous allons lire maintenant va lui aussi dans ce sens. Lisons donc Exode chapitre 13. Les versets 1 à 16. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. Moïse dit au peuple, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous partez d'Égypte. Lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner, une terre ruisselant de lait et de miel, alors vous observerez cette cérémonie en ce même mois. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain pendant ces 7 jours, et on ne trouvera chez vous ni pain levé ni levain dans tout votre territoire. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Vous célébrerez ce rite d'année en année au temps fixé. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie tout cela ?» Vous leur répondrez « C'est par sa puissance, que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et que nous rachetons les aînés de nos fils. » Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Un peuple libéré pour adorer Dieu et lui appartenir ». Un peuple libéré pour adorer Dieu et lui appartenir. Et je vais découper ce titre en trois parties. La première, « Un peuple libéré ». Vous avez lu les chapitres précédents. Dieu est en train de libérer son peuple du terrible esclavage qu'il subissait en Égypte depuis des siècles. C'est toute l'histoire du début de ce livre de l'Exode. Et dans les chapitres précédents, vous avez vu comment Dieu a fait pression sur les Égyptiens et sur le Pharaon pour que le Pharaon cède face à la puissance de Dieu qui est le vrai Dieu. Le Pharaon et ses dieux égyptiens ont dû reconnaître la toute-puissance du Dieu des Hébreux. Et vous avez vu aussi comment les Égyptiens ont chassé les Hébreux en leur donnant toutes sortes de biens matériels. Et comment finalement le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous la conduite, non pas de Moïse, mais de Dieu. C'est ce que dit le dernier verset du chapitre 12. C'est en ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre. Ils sont bien alignés, c'est pas deux par deux comme à l'école, mais bien alignés comme une armée qui sort pour combattre. Et c'est là que se situe notre passage de ce matin, au moment où le peuple sort d'Égypte, enfin. Et c'est cela qui revient comme un refrain dans notre passage. Vous l'avez peut-être noté à la lecture, c'est dit quatre fois dans notre passage. Au verset 3, d'abord, Moïse dit au peuple, « Vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par force. » Et puis, une deuxième fois au verset 9, « Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. » Et puis encore une troisième fois au verset 14, « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. » Et enfin, une dernière fois pour conclure notre passage au verset 16, « Car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Le peuple de Dieu est en train de sortir d'Égypte, de s'affranchir de cet esclavage. Ce peuple a été témoin de la puissance de Dieu. Il sort de l'esclavage, non à cause de ses propres qualités, mais à cause de la main puissante de Dieu. Et d'ailleurs, le dernier verset du chapitre 12, que j'ai lu tout à l'heure, dit « L'Éternel fit sortir son peuple ». Ce n'est pas un peuple conquérant qui sort d'Égypte, même s'il sort comme une armée en ordre de bataille. C'est le peuple d'un Dieu conquérant, d'un Dieu puissant, plus puissant que les dieux égyptiens. Et ce Dieu de Moïse, le Dieu de ce peuple d'Israël, c'est aussi notre Dieu, si nous plaçons notre confiance en sa puissance. Ce n'est pas par nos propres mérites que nous pouvons être libérés de l'esclavage du péché ou échapper à la mort, mais seulement si nous plaçons notre foi en Jésus, le Fils de ce Dieu puissant. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes, nous ne pouvons qu'être libérés par un Dieu puissant qui nous fait échapper à la mort. Et c'est ce que nous croyons en venant ici ce matin. Nous proclamons, c'est ce que nous avons dit aussi par nos chants et nos prières, nous proclamons que le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus son Fils, nous a libérés par sa main puissante. Nous sommes un peuple libéré. Sans lui, sans Dieu, nous ne serions pas là ce matin. Nous serions encore dans notre vie sans lui, esclaves de notre cœur pécheur. Si vous n'avez pas expérimenté cette délivrance, il est encore temps ce matin. Temps de vous tourner vers ce Dieu puissant qui veut vous rendre libre. C'est ce que dit Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Mais pourquoi Dieu a-t-il libéré son peuple ? Et pourquoi Dieu a-t-il voulu nous libérer, nous aussi ? Pour deux raisons, nous dit notre texte. Et c'est ce qui va faire l'objet des deux prochains points de cette prédication. La première raison, c'est pour adorer Dieu. Un peuple libéré, premier point, pour adorer Dieu, deuxième point. Et ce sont les versets 3 à 10 de notre texte. Notre chapitre 13 est construit de telle manière que les mêmes phrases se répètent deux fois dans chacune des parties. Vous l'avez peut-être entendu à la lecture, vous pouvez regarder plus en détail à la maison. Chaque phrase de la première partie se retrouve dans la deuxième partie du texte. Les versets 3 à 10 et 11 à 16 se répondent. Et le verset clé de la première partie, c'est le verset 5. Je le relis avec vous. « Lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner une terre ruisselant de lait et de miel, alors vous observerez cette cérémonie en ce même mois. » Ou dans une autre traduction, « vous rendrez un culte, vous célébrerez un culte. » Vous voyez, le but de Dieu, c'est d'amener son peuple libéré vers un lieu, un pays, où le peuple va adorer Dieu. Ce n'est pas seulement parce que Dieu aime la liberté qu'il a libéré son peuple. C'est dans un but plus profond, avoir une relation personnelle avec lui basée sur un respect exclusif. Et dans ces versets 3 à 10, on est dans la continuité du chapitre 12, où Dieu avait instauré le repas de la Pâque et la fête des pains sans levain. Dieu demande à son peuple de faire la fête pendant 7 jours, à l'issue desquels le peuple est invité à célébrer Dieu, à lui rendre un culte. C'est ce qui est dit aussi au verset 6. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. » C'est ce que Moïse avait d'ailleurs dit au Pharaon. « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me rende un culte au désert. » Donc, cette sortie d'Égypte, ce n'est pas juste un événement extraordinaire pour ce peuple. C'est la base de sa foi. Le calendrier cultuel commence d'ailleurs par cette célébration. La délivrance extraordinaire accordée par Dieu doit faire partie de l'ordinaire de chaque année qui passe en sa présence. Vous avez remarqué, et Laura l'a souligné déjà tout à l'heure, l'importance qui est attachée dans ce texte au devoir de mémoire. Se souvenir et transmettre la foi à la génération suivante. Verset 8, « En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant, « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Et ce principe reste valable pour nous aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas juifs et nous ne suivons pas religieusement le calendrier des fêtes juives. Dans notre texte ici, d'ailleurs, il est très clair que la fête des pains sans levain est un moyen, et seulement un moyen, pour se souvenir de la délivrance opérée par Dieu. Le but, c'est d'adorer Dieu, pas de respecter les dates d'un calendrier. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Et pas seulement parce que c'est dimanche. Dieu nous a libérés pour que nous puissions lui rendre un culte. Et c'est aussi ce qu'on a vu dans le 4e commandement, tout à l'heure, observe le jour du sabbat. Dieu nous appelle à entrer dans un temps de repos où il est notre Dieu et où nous l'adorons et où nous le servons. Dieu veut que nous lui exprimions notre reconnaissance et notre joie de ne plus être esclaves du péché, même si nous sommes encore tentés parfois de retourner vers notre ancien maître. Et nous sommes aussi invités à transmettre notre foi, c'est-à-dire notre respect pour Dieu, à nos enfants, aux plus jeunes parmi nous. Ils sont partis à l'école du dimanche. Vous avez peut-être aussi un groupe de jeunes. Peut-être faites-vous un culte en famille. Le verset 8 dit « Vous expliquerez à vos enfants le sens de ce que vous croyez et de ce que vous faites. » Et nous sommes encouragés à transmettre à nos enfants, à nos jeunes, ce que nous croyons. Mais ce n'est pas tout. Adorer Dieu, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu a libéré ce peuple. Une deuxième raison pour laquelle Dieu nous a libérés, nous aussi. Et c'est le troisième point. Un peuple libéré, premier point, pour adorer Dieu, deuxième point, et pour lui appartenir, troisième point. Ce sont les versets 11 à 16. Que Dieu avait d'ailleurs annoncé dès les premiers versets. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes, versets 1 et 2. « Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal. Il m'appartient. » C'est le message des versets 11 à 16. La deuxième grande partie de notre texte. Dieu se réserve en quelque sorte les premiers-nés. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Si vous vous souvenez des chapitres précédents dans le livre, Dieu n'a pas traité de la même façon les Égyptiens et les Hébreux. Les premiers-nés hébreux, les premiers-nés égyptiens, sont morts. Les premiers-nés hébreux, eux, sont rachetés. C'est ce qui est dit ici au verset 13. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter le premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Notez au passage que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Il n'est pas comme les dieux païens, en particulier les dieux égyptiens, que les Égyptiens adoraient. Si Dieu demande aux familles de son peuple d'offrir un sacrifice, c'est là encore pour se souvenir qu'être consacré à Dieu, ce n'est pas seulement être de bonne volonté, être religieux ou parce qu'on est quelqu'un de bon par ses propres efforts, c'est être racheté. Il faut se souvenir qu'on ne méritait pas d'être libéré et que c'est une grâce de Dieu. Verset 14, « Lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie cela ?» vous leur répondrez, « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. » Souvenez-vous de l'exterminateur du chapitre 12. Cet exterminateur qui est passé dans les maisons des Égyptiens et qui a épargné les maisons des Hébreux. Normalement, il aurait aussi dû passer dans ces maisons-là. Mais s'il ne l'a pas fait, s'il est passé par-dessus les familles des Hébreux, c'est ça le sens du mot « Pâques », l'ange exterminateur est passé par-dessus, c'est uniquement à cause du sang qui était sur la maison. Et ce sang, c'était le symbole qu'un sacrifice avait été effectué, qu'un animal avait été tué. Il y a donc bien eu une mort dans les familles des Hébreux, mais pas les premiers-nés. C'était un animal de substitution. Et ça, c'est ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. Jésus est le véritable agneau de la Pâque qui ôte le péché du monde. Alors que nous devions mourir à cause de notre révolte contre Dieu, Jésus a donné sa vie à notre place pour que la sanction de l'exterminateur tombe sur lui plutôt que sur nous. Et si nous plaçons notre confiance en lui pour être sauvés, alors nous rejoignons le nombre de ces premiers-nés qui sont rachetés par Dieu. Et au lieu d'être condamnés à vivre loin de Dieu, nous devenons ses enfants. Nous lui sommes consacrés, nous lui appartenons pour toujours. C'est aussi ce que dit Paul aux Éphésiens dans le premier chapitre de cette lettre, au verset 5. Il dit: puisque Dieu nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce que Christ s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Mes amis, voilà la vie que Dieu nous offre encore aujourd'hui et cette semaine. Dieu a voulu faire de nous un peuple libéré pour l'adorer et pour lui appartenir. Quelle que soit notre culture, notre origine sociale, familiale ou ethnique, ce Dieu libérateur nous invite à croire en lui et à l'adorer, mais aussi à transmettre cette foi à la génération suivante, parce qu'en Christ, nous formons une seule et même famille. Vous avez peut-être remarqué au verset 14, à la différence du verset 8, ce sont les enfants qui viennent poser des questions à leurs parents, alors qu'au verset 8, ce sont les parents qui expliquent directement à leurs enfants. Eh bien oui, les parents, l'Église, sont invités à expliquer le sens de la foi chrétienne. Nous avons une responsabilité entre les générations ici. Alors, vous verrez la prochaine fois, dans la suite de l'histoire, que le pharaon va regretter d'avoir laissé partir tous ses esclaves, toute cette manne financière, et va se lancer à la poursuite du peuple de Dieu. Et aujourd'hui encore, notre adversaire, le diable, aux griffes duquel Dieu nous a arrachés, essaye de nous ramener vers l'esclavage. Mais en Christ, nous appartenons une fois pour toutes à Dieu, notre Père. Nous devons donc résister à la tentation de lui tourner le dos pour retourner vers l'Égypte, ce qui est arrivé malheureusement à cette génération d'Israélites et qui sont morts dans le désert. Nous sommes invités aujourd'hui et cette semaine à marcher fidèlement avec Dieu. Et Dieu veut nous en donner la force et la volonté par son esprit. Pour conclure, je reprends le verset de Galates 5, verset 1, que j'ai commencé à lire tout à l'heure, mais je le lis cette fois-ci en entier. Écoutez bien. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage.